9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans 10 minutes, vos réactions sur le projet de nouvelle constitution au Gabon. Les électeurs votent samedi prochain. Mais d'abord, Xavier Besson pour la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Objectif, 1300 milliards à Bakou, où la COP29 débute aujourd'hui. 2 semaines de négociations sur les moyens financiers et de s'adapter au changement climatique et à ses conséquences. Les pays africains souhaitent multiplier par 13 l'aide qu'ils reçoivent, ou en tout cas qui leur est promise aujourd'hui. Dans ce journal également, le Mali, procès en appel ce lundi de l'économiste Étienne Fabaka Sissoko. En première instance, il avait été condamné à de la prison ferme pour avoir parlé de propagande de la part des autorités de la transition à Bamako. Le Togo, où les proches de Karou Wawim s'inquiètent d'une dégradation de son état de santé, lui qui est en détention provisoire depuis maintenant 6 ans. Et puis la Côte d'Ivoire, la parole se libère au sein de la fédération de Taekwondo, le deuxième sport du pays. Fédération aujourd'hui à l'arrêt après des accusations de harcèlement sexuel. Pour le président de la COP, c'est un moment de vérité qui débute aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan. Plus de 100 chefs d'État, un total de 40 000 participants pour 2 semaines de négociations. Discussions notamment sur le financement de l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Un sujet sur lequel les pays africains arrivent déterminés. Jeanne Richard.
L'Afrique demande 1300 milliards de dollars d'aide chaque année jusqu'en 2030. L'argent doit permettre aux pays pauvres d'opérer leur transition vers les énergies renouvelables. Il doit aussi les aider à s'adapter pour mieux résister au changement climatique et à réparer les dégâts après une inondation, une sécheresse ou un cyclone. Pour les pays africains, il est important que cet argent soit principalement versé sous forme de dons et pas de prêts qu'il faudra rembourser avec des intérêts, alors que beaucoup d'entre eux croulent déjà sous les dettes. En 2009, les pays développés avaient promis une aide de 100 milliards de dollars chaque année entre 2020 et 2025, promesse qui n'a pas été tenue dans les temps, ce qui a beaucoup crispé les relations Nord-Sud. Les pays en développement attendent donc beaucoup de ces nouvelles négociations, car les pays du Nord sont les responsables historiques du changement climatique, avec leurs émissions de gaz à effet de serre et leur industrialisation, et que ce sont les pays du Sud qui en paient aujourd'hui le prix fort. Pour les pays en développement, en particulier en Afrique, les pays riches doivent donc rembourser leurs dettes climatiques. Une manière aussi de rétablir la confiance dans le multilatéralisme.
Jeanne Richard, et sur ce sujet, vous avez pu entendre ce matin sur notre antenne Tosin Panupanu, négociateur en chef de la RDC, ou encore notre invité Afrique ce matin, Seni Nafo, le porte-parole du groupe des négociateurs des pays africains. Ils ont évoqué tous les deux notamment les objectifs ambitieux des pays africains ou encore les conséquences potentielles sur les négociations du retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump. RFI 8h33 à Bamako, au Mali, où la semaine débute sous le signe du judiciaire, avec 2 importantes affaires emblématiques de la restriction des libertés civiques dans le pays. Demain, la Cour d'appel se prononcera sur la mise en liberté provisoire ou non de 11 cadres politiques arrêtés au mois de juin. Et aujourd'hui, c'est l'économiste Étienne Fakaba Sissoko qui comparaît, condamné en mai à 2 ans de prison, dont un ferme, pour atteinte au crédit de l'État. Il est jugé en appel aujourd'hui, nous explique David Bachet.
Étienne Fakaba Sissoko comparaît être prisonnier, le parquet général ayant refusé sa mise en liberté provisoire. La cour d'appel s'y était pourtant montrée favorable le mois dernier. Sera-t-elle aussi compréhensive aujourd'hui sur le fond du dossier ? Étienne Fakaba Sissoko est incarcéré depuis 7 mois et demi. Sa défense dénonce une procédure politique. Le livre dans lequel l'enseignant-chercheur décrit la propagande du gouvernement est, selon Maître Ibrahim Marouf Sako, un travail universitaire, s'appuyant notamment sur des déclarations publiques. L'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International, considère que la détention d'Étienne Fakaba Sissoko est arbitraire et que sa peine doit être révoquée. Demain, ce sera sur le cas des 11 anciens ministres et dirigeants de parti arrêtés en juin que se penchera la cour d'appel. Ces membres de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel sont poursuivis pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ils s'étaient réunis en mars dans un domicile privé. À cette période, les autorités de transition avaient suspendu les activités politiques des partis et associations du Mali. La cour d'appel se prononcera demain sur leur demande de libération sous contrôle judiciaire, ordonnée par le juge d'instruction, mais refusée par le procureur.
David Baché, au Burkina Faso voisin, l'état-major ouvre une enquête et dénonce, je cite, un acte inqualifiable et contraire aux valeurs de l'armée et de ses supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie. Réaction après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant justement des VDP en train de démembrer un cadavre à la machette. L'état-major burkinabé dit vouloir d'abord établir l'authenticité et l'origine de la vidéo pour qu'ensuite les personnes concernées répondent de leurs actes. L'armée tchadienne, elle, reconnaît des pertes importantes dans la région du lac Tchad. L'état-major indique que des combats samedi avec des djihadistes de Boko Haram y ont fait 17 morts dans ses rangs, dont plusieurs haut gradés. Et dans son communiqué, l'armée assure aussi avoir tué une centaine d'ennemis. La région du lac Tchad, où l'armée mène depuis fin octobre une opération de représailles contre Boko Haram, après une attaque qui avait coûté la vie à une quarantaine de militaires. Inquiétude au Togo autour de l'état de santé de Karou Wawim, lui qui avait été arrêté en 2018 au moment de manifestations de l'opposition contre le résultat d'élections législatives. Depuis, il est emprisonné, mais n'a pas encore été jugé, comme au total 13 autres personnes arrêtées dans ce même contexte, selon l'ASVITO, l'association des victimes de la torture au Togo, alors que 2 autres ont été libérés en début d'année. Aujourd'hui, les proches de Karou Wawim alertent sur son état devenu préoccupant et ses défenseurs affirment que son cas n'est pas isolé. Magali Lagrange.
Karou Wawim est interpellé devant une pharmacie le 21 décembre 2018. Il raconte avoir été frappé à coups de crosse et avoir subi des violences par la suite. Aujourd'hui, ses proches s'inquiètent, comme l'explique Acholi Kao, président de l'association des victimes de la torture au Togo.
Il manifeste un amaigrissement général et il a le ventre qui est gonflé, selon les témoignages de la famille, avec une grosse boule à la poitrine et il a des difficultés respiratoires. Pour toutes ces personnes, ce sont les famille même qui se débrouille pour prendre en charge leurs proches.
Karou Wawim est détenu depuis presque 6 ans sans procès, comme d'autres personnes arrêtées à cette période pendant laquelle le Togo connaît des manifestations de partis d'opposition contre les législatives. Maître Raphaël Pandéazaré est l'avocat de plusieurs d'entre elles, soupçonné notamment de troubles à l'ordre public ou de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État.
Monsieur Karou Wawim fait partie d'une kyrielle de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations de la C14. Et depuis, ils sont en détention préventive. Ils ont subi des actes de torture, notamment les décharges électriques. Même si c'est le cas de M. Karou Wawim qui affleure aujourd'hui, tous sont vraiment malades. Nous pensons que c'est des détenus d'opinion.
Il y a un an, la Cour de justice de la CDAO s'est prononcée pour la libération d'un groupe de 14 détenus, dont Karou Wawim. À ce jour, cette décision est restée sans effet.
Magali Lagrange. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, la Côte d'Ivoire où le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo parle d'une rencontre cordiale et qui s'est bien passée. Entretien hier à Abidjan entre l'ancien président ivoirien et l'ambassadeur de France. Une première depuis décembre 2010 alors que Laurent Gbagbo tient Paris pour au moins en partie responsable de son départ du pouvoir à l'issue de plusieurs mois de crise en 2011. La Côte d'Ivoire où la parole se libère au sein de la fédération de taekwondo. Derrière le football, c'est le deuxième sport du pays et depuis fin octobre, toutes ces activités sont suspendues alors que depuis un an, plusieurs athlètes ont formulé des accusations de harcèlement sexuel. L'une d'entre elles a accepté de témoigner au micro de notre correspondant à Abidjan, Youen Gourlet.
Mariama Cissé a failli tout arrêter. Talentueuse taekwondoïste, médaillée de bronze au championnat d'Afrique 2022, elle est mise à l'écart de la sélection ivoirienne après avoir refusé les avances de l'entraîneur de l'équipe nationale.
Avec les refus, ça n'a pas joué à ma faveur. J'ai commencé à être mise à l'écart. Ça a coupé mon élan parce que je comptais plus à l'équipe nationale. J'ai été remplacée même sans un test match.
Remplacée par une athlète junior pour les championnats d'Afrique organisés en novembre dernier à Abidjan, elle décide de porter plainte pour harcèlement sexuel et abus de pouvoir le mois d'après. La Fédération ivoirienne de taekwondo réagit, l'entraîneur en question est limogé, ainsi que le directeur technique national. Une commission spéciale d'investigation est alors menée, une confrontation a même lieu entre l'entraîneur et l'athlète. Puis la jeune femme dit ne plus avoir eu de nouvelles.
Je veux pas aussi que d'autres personnes puissent subir la même chose. Le mettre juste à l'écart, je crois que ça veut rien dire en fait. Ça va continuer s'il n'y a pas de sanctions.
En septembre, une nouvelle plainte pour harcèlement sexuel a été déposée par le père d'une athlète de 17 ans contre le nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Depuis, la fédération est en crise et reprend doucement ses activités. Selon l'instance, l'entraîneur limogé en décembre aurait été mis en examen et l'affaire aurait été renvoyée auprès du tribunal correctionnel d'Abidjan. Un procès doit donc avoir lieu. Maria Massissé, elle, s'est reconstruite au sein de l'académie Evolution à Abidjan. Elle espère maintenant devenir championne d'Afrique. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Et si le sujet vous intéresse, on en a parlé ce week-end dans l'émission Mondial Sport avec Hugo Moissonnier. C'est à réécouter sur RFI.fr et sur Pure Radio. Pour l'instant, il est 9h40 ici à Paris et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson et à demain.